commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passées, présentes et parfois même futures. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup...
Bonjour. Un livre, oui, mais quel livre? Avec L'Oiseau des Lires, nous sommes là pour vous présenter nos derniers coups de cœur et nos dernières lectures. Et aujourd'hui, pour la rentrée, rentrée oblige, rentrée des prix littéraires. Et nous, les prix littéraires à Évreux, c'est donc les dévoreurs de livres. Aujourd'hui, nous allons présenter quelques titres des dévoreurs, du coup. Alors, on va commencer doucement, hein, toujours pareil, hein, c'est le début de l'année, on se met bien. La Drôle d'Évasion. La Drôle d'Évasion, donc, lui sera au niveau CM. Un livre de la collection Pépix, bon, une collection que j'adore, vous savez bien. J'ai même déjà, je crois, parlé de La Drôle d'Évasion, encore une fois. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Donc, de Séverine Vidal. Séverine Vidal, une grande auteure qui est en train de monter, d'ailleurs, de façon exceptionnelle. Et illustrée par Marion Pièche, puisque le principe de cette collection est donc d'avoir des romans illustrés. Avec toujours un fond d'humour, mais aussi un message un peu plus sérieux, si je puis dire. Donc La Drôle d'Évasion, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui voudrait prouver qu'il y a vraiment trois personnes qui sont évadées d'Alcatraz dans les années 60. Trois personnes. Et pour ça, il décide de se faire enfermer dans Alcatraz aujourd'hui. C'est assez facile, son père ayant un petit problème, c'est qu'il est très très distrait. Mais vraiment hein, très distrait. Hein. C'est du genre à oublier qu'il porte ses lunettes ou que voilà, ou à prendre la mayonnaise alors que c'est de la crème solaire. Enfin bref, très distrait. Donc la partie se faire enfermer dans Alcatraz n'était pas la plus dure. Et il décide de reproduire la même évasion, donc avec le même matériel, si je puis dire, puisqu'ils avaient un canot, ils avaient tout prévu, les mecs. Sauf que le canot, il l'avait fait un peu différemment de lui, mais bon, il a tout prévu, il est prêt. Alcatraz étant maintenant un musée, il est assez désert la nuit. Et là, il s'endort, en attendant la nuit, puisqu'il s'est caché dans une cellule, et quand il se réveille, c'est là que ça devient grave, c'est qu'il se retrouve avec les prisonniers. Oui, oui, les trois prisonniers, il a fait un petit voyage dans le temps. Il se retrouve avec les trois prisonniers des 1960, là, des 1967, si je ne me trompe pas, ou 68. Et ben là, comment faire? Parce que bon, ça reste des prisonniers qui étaient en train de s'évader, ils n'ont pas forcément envie de traîner un gamin avec eux. Hein, un gamin qui ne comprend pas trop ce qu'il fait là, d'ailleurs. Et voilà, on est parti avec ce gamin et ses trois prisonniers pour la plus grande évasion, quand même, qui eut lieu, l'évasion d'Alcatraz, dans les années 60. Et c'est un super roman, c'est bourré d'humour. Et le principe de cette collection, c'est qu'il y a des petits bonus, en fait. Vous allez avoir plusieurs petits bonus au fur et à mesure du livre qui va nous présenter le plan d'Alcatraz, le plan d'évasion, ainsi de suite. C'est bourré d'humour, c'est drôle, c'est intelligent, c'est fin. Vraiment un très, très grand roman et c'est dans le niveau CM. Et pour le deuxième, donc c'est un sixième cette fois-ci, attention, on monte, on grandit. C'est toujours un Séverine Vidal, c'est toujours un Pépix, sauf que cette fois-ci, c'est illustré par Anis Combeau. Eh oui, j'avais dit, Séverine Vidal, elle monte. Eh ben, la collection Pépix monte avec elle. Il était deux fois dans l'Ouest. Alors, c'est un très beau roman, moi j'aime bien. C'est un roman sur l'Ouest américain, sur l'Ouest sauvage, l'Ouest pur, dur, enfin presque. Puisque, en fait, on va suivre une jeune fille qui part avec sa mère, qui est maquilleuse pour star, en fait, dans le cinéma américain. Donc, elle part de Paris direction les Grand Canyon et les réserves Navarro, donc les réserves indiennes, pour aller tourner un film de zombies. Je crois que c'était un film de zombies à la base, d'ailleurs. La petite fille va jouer dedans. Parce que jouer un zombie, c'est drôle. Et elle va rencontrer Josh. Josh, un grand garçon Navarro. Et c'est pas une première histoire d'amour, mais un peu quand même. Mais il y a surtout toute une réalité autour de l'Amérique. Il y a toute cette réalité sauvage. Et puis, il y a surtout Sloppy Joe, un vieux cow-boy. Et à moitié fou, ou trois quarts fou, machin. Qu'ils vont croiser. C'est voilà, c'est des grandes plaines américaines, c'est le cinéma, c'est le western, c'est les Indiens. C'est bourré d'humour, c'est bourré d'amour, c'est bourré de tendresse et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très sympa. C'est encore un grand roman de Séverine Vidal. Je vous laisse les bonus parce qu'ils sont vraiment, 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 oui, je me répète, très, très bien. C'est des grands bonus autour de l'Amérique, autour des Indiens, autour des traditions indiennes. C'est très intéressant du coup en plus. Donc voilà, un grand roman de Séverine Vidal, encore un, cette fois-ci dans les niveaux 6e. Et les deux suivants. Alors les deux suivants, c'est sur le niveau 4e, 3e. Donc on passe un peu, puisqu'il y a des communs entre les différents niveaux. Donc là, c'est deux communs au quatrième, troisième. Alors, un qui est un grand coup de cœur, je pense, pour beaucoup de gens. Et bah, en ce moment aussi, d'ailleurs, je pense. C'est Mortel Smartphone de Didier Denynx, excusez-moi, chez Oscar Éditeur. Alors, Didier Denynx, mon grand auteur adulte et jeunesse, un très très grand, très engagé d'ailleurs, qui nous écrit un roman sur les smartphones. Alors, comme son nom l'indique pas, ce n'est pas un roman de science-fiction, il n'y a rien à voir avec un smartphone tueur, mais un peu quand même, puisqu'on va découvrir l'envers du décor. Puisque les smartphones d'aujourd'hui, donc ce que vous pouvez avoir sur vous par exemple, sont en fait, ont une petite puce dedans qu'on appelle le tantale. Le tantale, qui est le composant électronique le plus petit au monde et le plus grand conducteur d'ailleurs, qui fait qu'il est très recherché d'ailleurs. Et ce tantale, il y a plusieurs moyens de l'obtenir dans des mines. Alors, il y a des moyens légaux, il y a des mines légales, en Chine notamment, il y a des mines légales où les gens ne sont pas trop exploités. Et sinon, il y a l'Afrique. L'Afrique, c'est bien parce qu'on envoie juste des armes. Et puis comme ça, les bandits qui sont équipés, les bandes armées, kidnappent des enfants, les mettent dans des mines, qui envoient ensuite le tantale ailleurs. Eh oui, les smartphones, c'est pas forcément, c'est pas forcément que des applications. Il y a des gens qui souffrent derrière et des gens qui meurent. C'est un très court roman, vraiment. Ça doit faire, 50 pages, 60 pages. On suit un des enfants qui va s'échapper. C'est très très beau, c'est très très fort, c'est une réalité physique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas de la science-fiction là qu'il est en train de nous raconter, clairement. C'est quelque chose qui arrive tous les jours. Des gens qui meurent des smartphones, c'est pas pour rien. Parce que, voilà, on trouve encore plus simple au jour d'aujourd'hui d'envoyer des armes et de l'argent à des bandes armées plutôt que d'essayer de faire la paix, de pacifier, parce que ça, c'est sur plus long terme. Donc on risque de perdre l'intérêt de ces mines. Et on a besoin de ces mines, en fait. Tous les fournisseurs ont besoin de ces mines. Donc voilà, un grand roman engagé de Didier Denynx. Vraiment, c'est très très beau, c'est très très fort. Et ça montre une réalité qui n'est pas forcément connue de tout le monde, encore moins des jeunes, surtout pour les ados. C'est vrai que beaucoup d'ados ne savent pas ça, ce qui est dommage, certains le savent, encore heureux. Et quand on veut le dernier smartphone, c'est vrai que c'est bien aussi de se poser la question de savoir, peut-être que là d'où il vient, ça a coûté la vie à 10 gamins, quoi. 10 gamins de 8 ans, quoi. Donc voilà, à nous de voir aussi ce qu'on veut dans la vie, quoi. Donc ça, c'est Mortel Smartphone. Oui, j'avoue, c'est pas le plus joyeux du monde, mais il est nécessaire, à mon sens. Et le deuxième, c'est Mémor. Alors, Mémor, je vais essayer de bien prononcer le nom de l'auteur, je suis désolé si je fais une faute. C'est Kinga Wierzykowska. Voilà. Oui. Chez Bayard. Donc, avec une illustration de couverture de Sévremier qui est très jolie. Un jeune garçon polonais, Tomek, a perdu son frère, Tadzio. Tadzio, voilà. Tadzio, il y a des années, et ils sont partis à Paris vivre. Et il a gardé un souvenir de la Pologne, c'est la mnémosine qu'une vieille dame lui a donnée. Et cette dame lui a dit de la garder, qu'elle lui permettrait de retrouver son frère. Et mais il aimait beaucoup cette vieille dame, un peu bizarre, mais il l'aimait beaucoup. Donc il l'a gardée autour du cou, il ne l'a jamais donnée, il a toujours suivi ses règles, ses quelques petites règles. Et un jour, il s'aperçoit que Tadzio, ses dernières photos qu'il a faites de Tadzio, s'effacent. Lui s'efface, en fait. Tadzio s'efface des photos. Il n'existe plus. Sa mère semble de moins en moins s'en souvenir, alors que c'est son fils. Et il commence à réfléchir à tout ça. Il commence à s'apercevoir que la mnémosine chauffe aussi. Il ne comprend pas trop pourquoi la mnémosine est une espèce de pierre. Pour info, quand même, c'est un espèce de cristal qu'il a en pendentif. Et pareil, sa famille se souvient plus aussi de Janis Joplin, une très grande chanteuse qu'on va suivre aussi finalement. Enfin, on va suivre pas son histoire, mais on va suivre ça aussi. Janis Joplin, une très grande chanteuse de rock. Ses CD ont disparu et lui est le seul à s'en souvenir. Il comprend pas trop. Et à un moment, il va toucher la mnémosine et il va se retrouver de l'autre côté. De l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la mort. Et étant vivant, bien sûr. Et il va se balader dans ce monde de la mort où il va s'apercevoir qu'il y a un grand danger. Un très grand danger, que son frère, en fait, est partie prenante de ce danger, ou en tout cas une des victimes. Donc il va se mettre à la recherche de son frère. C'est un très beau roman. Alors déjà, c'est un roman sur la mort, donc c'est vrai que ça n'a pas l'air joyeux comme ça, mais c'est vrai que c'est un beau roman, puisqu'on décrit tout un monde un peu fantasmatique comme ça, des différents personnages de la mort. On va croiser plein de personnages, justement. On va croiser Janis Joplin, du coup, Charles Darwin. On croise plein de scientifiques, Marie Curie. Tous ces scientifiques qui, après la mort, finalement, continuent de travailler, tous ces chanteurs qui sont toujours là. Et en même temps, ils s'oublient, parce qu'en fait, le principe de ce roman, en fait, c'est que tant qu'on se souvient de nous, ça marche, ils sont toujours en vie. Mais moins on se souvient d'eux, plus ils s'effacent, plus ils disparaissent, moins ils ressemblent à des êtres humains, si je puis dire. Plus ils ressemblent à des sortes de formes, des ombres. Réellement des ombres. Et ce gamin va donc partir à la recherche de son frère dans ce monde de la mort. Et il va être opposé, bien sûr, à beaucoup de dangers. c'est la mort déjà d'une et du mauvais côté de la barrière, puisqu'il est vivant. Donc, et en plus, on va s'apercevoir très vite que sa mnémosyne est peut-être la clé aussi du complot dans la mort. Donc un grand roman sur la mort, effectivement, pas le plus drôle au départ, ce côté sur la mort, mais après, avec tout cet univers fantastique, fantasmatique, et tous ces grands personnages qu'on redécouvre, si je puis dire, qui auront toujours une vie derrière la mort, puisque tant qu'on se souvient d'eux, ils sont là, rend ce roman très très attachant, et un très beau roman pour les adolescents, en fait, et un grand roman, en fait, chez Bayard. Un très beau roman autour de la mort. Et on arrive à mes grands coups de cœur. C'est les miens. C'est Elissa de Carthage, notamment, d'Éric Senabre, un auteur que j'aime beaucoup, qui a déjà été dans les Dévorats avec Subutessia. Donc Elissa de Carthage qui est sur le niveau 4e. Elissa de Carthage, donc pour les grands, pour les 4e. Chez Didier Jeunesse, toujours d'ailleurs. Il publie toujours chez Didier Jeunesse pour ses romans. Et c'est super. C'est super parce qu'en fait, Éric Senabre est parti d'un principe. On est après la deuxième guerre de Macédoine. Les Macédoniens ont été boutés hors de Rome. Les Carthaginois, excusez-moi, les Macédoniens, oui, enfin aussi, d'ailleurs. Les Carthaginois, deuxième guerre punique, seconde guerre punique, les Carthaginois ont été boutés, encore une fois, et Rome est à nouveau la première puissance. Et Elissa est mariée à un consul, et c'est une ancienne Carthaginoise d'ailleurs, mais elle est partie, elle avait 6 ans, a priori, de Carthage, elle a été emmenée en esclavage, et son mari, donc son nouveau mari, s'est marié avec elle quand elle avait 14 ans. Oui, on est au Haut Empire romain, on se marie assez jeune. Donc elle est assez riche finalement, elle est aidée par son esclave, si je puis dire, parce que c'est pas tout à fait un esclave, c'est plus un ami, mais il a toujours le statut d'esclave, pour vivre dans Rome. Donc tout va bien, son mari est revenu d'une mission soi-disant commerciale à Carthage, mais on s'aperçoit en fait qu'il était espion pour le compte de Rome, parce que Rome se méfie énormément de Carthage, toujours après cette seconde guerre punique, et a très peur qu'ils reviennent. Bon, et en même temps, avec ce qu'ils sont pris, c'est vrai qu'ils ont Rome se méfie un peu de ça. Donc il décide d'envoyer des missions d'espion. Et au moment où le personnage revient, son mari, il lui dit à Elissa de s'enfuir très vite. Et là, il meurt, poignardé par un des esclaves de la maison, après avoir lâché une poudre noire. Et c'est Elissa qu'on va envoyer en mission commando, si je puis dire, en mission d'espionnage, pour reprendre le rôle de son mari. Alors ça paraît gentil sur le principe, hein, si je puis dire, elle pourrait vouloir se venger, mais c'est pas ça, c'est parce que normalement, elle est censée hériter de l'argent de son mari, qui est donc un édile à l'époque, donc je crois qu'il est édile, ouais c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui est très très riche, mais les Romains, c'est pas qu'ils voient d'un mauvais œil, mais ils veulent se servir d'elle comme elle est carthaginoise. Donc clairement ils lui disent, bah, si tu veux récupérer l'argent de ton mari et donc vivre heureuse, si je puis dire, bah tu fais ce qu'on te dit, sinon on déclare que tu es carthaginoise à la solde de l'ennemi, et puis on t'assassine. Ce sera beaucoup plus simple et on récupérera l'argent. Donc pour sauver sa vie en quelque sorte, elle n'a pas trop le choix que de faire espionne. Et la voilà lancée dans Carthage, à cette époque, sous un faux nom, bien sûr. Et comme elle est très jeune, elle va vite tomber amoureuse d'un Carthaginois qui est peut-être, finalement, ce grand ennemi de Rome, puisque la poudre noire sert à quelque chose, mais ça, je vous laisserai le découvrir. C'est un mélange entre James Bond, Indiana Jones et Spartiate et Sparte 300. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette époque romaine, on est vraiment à cette époque, donc tout est historiquement parlant propre, mais en même temps, il y a tout un côté de James Bond, puisque c'est un espion. Et on a aussi toute une action, toute une aventure. C'est énormissime et il va nous faire une petite... je n'ai pas envie de dire un petit truc, mais bon, vous verrez, c'est un petit... Il a joué un peu avec l'histoire. Il joue un peu avec l'histoire, lui. Et c'est très, très bien amené et totalement crédible, en plus. Un très, 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 très bon roman d'antiquité. Et le dernier, La Voix des Oracles d'Estelle Fay. Alors moi, ça a été mon grand coup de cœur quand il est sorti. Volume 1, Tia, qui se finit bien, en plus. Enfin, qui se finit, on n'est pas obligé de lire la suite. Tia, encore un roman sur l'Antiquité, mais là c'est l'Antiquité chrétienne en Gaule. C'est au moment où Rome est passée du côté chrétien, donc où on a arrêté les dieux païens. Donc les évêques et autres émissaires chrétiens étaient envoyés partout pour brûler les sorcières. Hein, voilà, hein, c'est plus simple. Plutôt que d'essayer de leur faire passer la chrétienté, il y a des choses qui ne changeront pas. Et sauf que Tia est une jeune fille douée des pouvoirs des Étrusques, en fait, des Étrusques et des dieux païens. Donc elle a été élevée en Aquitaine, loin de Rome, pour ne pas se faire tuer. Et son père échappe à une tentative d'assassinat, sauvée par une créature, le faune. Le faune et une ondine, d'ailleurs, qui sont des créatures païennes, bien sûr, mais qui existent toujours, mais qui sont reculées dans les forêts, puisque plus personne ne croit en eux. Donc c'est vrai qu'ils se reculent au fur et à mesure. Et voilà Tia qui va essayer de sauver son père, en fait, qui est entre la vie et la mort. Et elle est persuadée, d'après les oracles, d'après ce qu'elle a lu, qu'elle doit aller à Brog, la forteresse de Brog. et elle part avec Enoch, un vieux gladiateur, et accompagnée de toutes ses légendes. On va croiser tous les dieux antiques et païens. Kul'san, le dieu de la mort païen gaulois, donc le faune, les ondines, tout un monde antique et païen qu'on découvre. Et c'est frais, c'est... Voilà, c'est vraiment intéressant pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on a une chrétienté en fait historique, genre ça c'est historiquement parlant, c'est ce qui s'est passé. Et aussi on a tout un monde antique qui est très peu étudié finalement dans les romans jeunesse, en tout cas je parle de ce côté-là en fait. Le côté gaulois, les gallo-romains, tout le côté gallo-romain, ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est toujours très peu étudié en fait, donc finalement on rentre dedans et on s'éclate avec. Et enfin voilà, il y a tout un monde antique qui est génial, il y a toute une fantaisie que je trouve énorme, des créatures, des personnages païens d'origine. Et Selfay est un grand écrivain. C'est bien sûr publié chez Scrineo, hein. Scrineo aussi un éditeur que vous commencez à connaître avec moi, hein. J'en parle à peu près toutes les deux semaines. Donc voilà, un très très grand roman, une très belle couverture d'ailleurs aussi pour une fois. Ils s'améliorent vraiment dans leur couverture en plus, je trouve. Donc voilà, un des plus grands romans que je trouve. Enfin, pour moi, sur de la fantaisie antique, voilà, c'est pas tout à fait de la fantaisie, c'est pas tout à fait de l'histoire antique, c'est entre les deux. C'est bourré d'action, c'est fort, c'est bon, ces personnages ont un grand caractère, vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, ça c'est pour moi. La semaine prochaine, enfin il y a dans deux semaines plutôt, Annie vous parlera d'autres romans, des dévoreurs normalement, notamment un qui est d'actualité, ça s'appelle La Traversée de Jean-Christophe Tixier chez Rajo, Rajo éditeur sur le niveau 5e, qui est un très grand roman aussi. Et qui est une grande traversée, je la laisserai en parler, elle en parle beaucoup mieux que moi, mais c'est vraiment d'actualité, je pense. Il ne vous reste plus qu'à vous remercier pour votre écoute, vous souhaiter une bonne journée, n'oubliez pas, les livres s'empruntent en médiathèque et s'achètent en librairie. Bonne journée.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.